Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Alors, vous le savez, Israël a frappé le consulat de l'Iran en Syrie. L'Iran a répliqué en envoyant des drones et des missiles balistiques contre Israël, des milliers de missiles balistiques. Le bouclier antimissile d'Israël a fonctionné. Il y a seulement une personne qui a perdu la vie suite à cette attaque-là. Là, bien sûr, on craint l'escalade. On va en parler avec M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite, ancien attaché de la défense canadienne en Russie et en Ukraine, mais là, on va se transporter en Israël. Bonjour, M. Saint-Cyr.
Bonjour, M. Martineau.
Bonjour. Alors, le bouclier antimissile israélien a fonctionné. L'Iran savait, connaissait fort bien l'existence de ce bouclier-là. Comment expliquer cette attaque-là de l'Iran? Est-ce qu'on voulait tester l'efficacité du bouclier israélien?
Mais en fait, le bouclier a fonctionné pour un type d'arme en particulier, puis c'est les missiles balistiques. Alors, les missiles balistiques qui est projeté en altitude et qui va retomber éventuellement sur une cible, le bouclier antimissile, le dôme de fer, a été très efficace. La majorité des drones qu'on appelle et des missiles de croisière, eux, ont été interceptés au-dessus de l'Irak. Alors, ils traversaient l'espace aérien irakien. Et les forces en présence, c'est-à-dire américaines, britanniques et françaises, avaient mis sur pied un dispositif de défense avec leurs avions de chasse, les chasseurs, qui, à l'arrivée de ces drones-là, ont tout simplement intercepté ces appareils-là et les ont détruits au-dessus du sol irakien. Donc, ce que ça fait, c'est que vous avez une démonstration international de protection envers Israël parce que les Américains, les Britanniques, les Français se sont impliqués à protéger Israël dans ce cas-là, qui envoie aussi le message aux Iraniens, ben écoutez, si vous frottez aux Israéliens, vous risquez de voir des alliés venir très près d'Israël pour l'aider dans leur protection. Alors, il y a un message qui est quand même assez important qu'on peut lire.
Et là, l'Iran dit, bon, Israël a frappé notre consulat en Syrie, nous avons riposté, ça reste là. On ne veut pas aller plus loin que ça. Israël dit, non, désolé, nous autres, on va riposter à l'Iran. Et là, évidemment, les alliés d'Israël disent, non, calmez-vous, on ne veut certainement pas une guerre ouverte, une confrontation ouverte avec l'Iran. Est-ce que vous croyez que le régime de Netanyahou va écouter les appels au calme de ses alliés?
Mais on espère bien, parce que sinon, ça peut s'engendrer dans une espèce de chaîne d'événements et puis qui peut nous conduire à un conflit beaucoup plus large. Il y aurait possiblement une escalade. Ce que les alliés tentent de dire à Israël, on comprend l'effet de réciprocité, c'est-à-dire vous faites attaquer, vous êtes en mesure de répondre, mais de le faire dans une façon retenue. Et ne pas nécessairement le faire qui va engendrer de la part de l'adversaire une autre réponse qui va être encore plus grande et de là l'escalade du conflit. Alors, il y a des mouvements, je crois qu'il y a des pourparlers politiques, autant de la part des Américains surtout, pour demander au gouvernement israélien d'avoir une retenue dans leur éventuelle réponse. Oui, et puis c'est nécessaire parce que c'est tellement chaud ce coin que ça prendrait pas grand-chose pour s'embraser. Puis là, Faut pas oublier une chose, M. Martineau. Il y a des armes de destruction massive qui sont sur ce territoire-là.
Ben oui.
Éventuellement, l'Iran pourrait obtenir, l'Iran avec son industrie nucléaire, pourrait obtenir aussi ou fabriquer une bombe dans un délai qu'on dit relativement court. Alors, c'est à prendre avec une énorme prudence. Et puis, la diplomatie doit jouer son rôle pour tempérer autant les Israéliens que les Iraniens. Et tout le monde se met ensemble pour éviter que ce conflit-là devienne trop grand et qu'une escalade incontrôlable par la suite puisse arriver.
Et M. Saint-Cyr, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité internationale de près, qu'est-ce que fait l'Iran dans ce conflit-là? Quel est son intérêt à l'Iran de participer à ce conflit-là? Ils ne sont pas là pour défendre les Gazaouis, là.
Ben, c'est une longue histoire parce que l'Iran, ça fait 45 ans qu'ils sont en conflit avec Israël. C'est depuis la révolution islamique, avec l'arrivée de Khomeini, où le discours iranien, à l'époque, l'Iran du Shah était quand même en bon terme avec Israël, mais l'Iran de Khomeini, avec la révolution islamique, ont identifié Israël comme l'ennemi dans la région. Et c'est aussi... Il y a un effet géostratégique. Alors, qui va contrôler cette région-là? L'Iran devient de plus en plus puissant militairement pour le faire, tandis qu'Israël l'est déjà militairement assez puissante. Alors, il y a une confrontation qui s'installe autant au niveau idéologique qu'au niveau d'importance géostratégique qui oppose ces deux pays-là. Mais je vous dis ça rapidement, M. Martineau, oui. Parce que c'est quand même une histoire qui date de plusieurs années et on en aurait pour au moins un cours universel à 45 heures pour bien comprendre.
Mais M. Saint-Cyr, l'Iran veut finalement la disparition d'Israël, hein, totalement l'éradication d'Israël de cette... ils ne défendent pas le système à deux États. Là. Ils veulent qu'Israël disparaisse carrément.
Alors, c'est dans le discours actuel des Iraniens que l'État d'Israël devrait disparaître. Et l'Iran, actuellement, en proxy, va alimenter certains groupes qui sont opposés à Israël, comme le Hezbollah, en particulier au Liban. Ils vont les alimenter. L'Iran a quand même fourni des armes au début, dans les mois qui ont précédé l'attaque du mois d'octobre dans la bande de Gaza, ont alimenté la Hamas aussi avec des roquettes. Alors, l'Iran participe d'une façon proxy à s'engager à attaquer Israël à travers ces groupes-là, comme le Hezbollah et la Hamas. Alors, l'Iran joue un rôle, mais ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est la première confrontation directe des Iraniens envers les Israéliens.
Il y a des gens qui appellent à la guerre. Là, je lisais dans le National Post un texte d'opinion qui disait les Israéliens devraient en profiter pour détruire toutes les installations nucléaires qu'il y a en Iran. Vous imaginez, ça serait se mettre le bras dans le tordeur. Là. Si effectivement Israël fait ça, commence à frapper les installations nucléaires de l'Iran, là, on n'est pas sorti du bois. Là.
Il faut appeler à la retenue. Il faut que la diplomatie joue son rôle et il faut baisser la tension qu'il y a dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est extrêmement tendu avec les conflits avec la Hamas et aussi les conflits frontaliers entre le Liban et Israël qui sont alimentés par l'Hezbollah, qui est alimenté par la suite par l'Iran. Alors, c'est une situation qui est compliquée dans le secteur. Si on commence à prôner un discours d'anéantissement de structures très importantes comme l'énergie nucléaire qu'il y a en Iran, je crois que tout ce qu'on ferait, c'est qu'on contribuerait à une escalade du conflit. Alors, le mot du jour, M. Martineau, c'est de dire prudence, retenue, et laisser la diplomatie s'installer et discuter pour justement éviter que le conflit s'envenime.
Il y a un homme qui doit se sentir bien seul, M. Saint-Cyr, c'est M. Zelensky. Hein, vous avez travaillé comme attaché de la défense canadienne en Russie, en Ukraine. Lui, il doit dire, l'Ukraine, on continue à se battre avec la Russie, mais tous les projecteurs sont sur le Proche-Orient. Il se sent comment, M. Zelensky, lui?
Mais ce que Zelensky espère, c'est que le Congrès américain, une fois pour toutes, tranche et soutienne et approuve l'aide financière qu'ils lui ont laissé miroiter qu'il pourrait avoir. Avec cette aide-là, ça va lui permettre d'acheter des armes, de se procurer des armements et des munitions pour repousser encore plus les assauts des Russes. Ce que Zelensky, actuellement, peut être réconforté, c'est que l'Europe s'est réveillée. Et que l'Europe, de plus en plus, lui fournisse des armes et ont un programme de soutien qui est encore plus onéreux qu'auparavant. Mmh. Alors, dans ce côté-là, du côté européen, il y a un soutien qui est indéniable et qui va aider. Ça l'aidera pas à gagner la guerre, pas du tout. Mais ça va l'aider probablement à contenir l'assaut actuel des Russes. Alors, l'idée, c'est qu'un coup qu'on est capable de le contenir dans les prochains mois, c'est de recevoir l'aide américaine pour par la suite, repousser les Russes. C'est à ça qu'est la stratégie ukrainienne. Alors, c'est en deux volets. Et là, pour repousser les armées russes du territoire ukrainien, ou en partie du territoire ukrainien, ça prend absolument l'aide américaine.
Mais là, les Américains, on leur demande d'un côté d'aider Israël, de l'autre d'aider l'Ukraine. C'est beaucoup demandé, c'est beaucoup d'argent. Et là, j'imagine qu'il va y avoir des isolationnistes aux États-Unis qui vont dire, écoute, est-ce qu'on peut régler nos problèmes internes avant d'essayer de défendre Israël et l'Ukraine?
Définitivement, c'est un débat qui est interne au niveau politique américain qui va prendre l'ampleur parce que tout le monde est à la recherche d'argent pour soutenir des programmes, que ce soit des programmes nationaux à l'intérieur des États-Unis, mais aussi il y a ce besoin-là de maintenir pour les Américains, de maintenir leur présence à l'externe, et cette présence-là, elle est coûteuse. Alors, c'est un débat qu'ils ont. Et puis écoutez, M. Martineau, on a un débat similaire chez nous quand on regarde notre défense nationale qui est en manque et qui en a besoin d'avoir des argents supplémentaires pour obtenir des nouveaux équipements, rehausser notre recrutement, mais on les a plus parce que ces argents-là, on doit aussi les disperser, pas les disperser, mais les utiliser à d'autres fins qui sont aussi nécessaires, des besoins aussi nécessaires. On n'a pas plus de sous. Alors, excusez l'expression, la pièce, là, on ne peut pas diviser plus que ça.
Exactement.
On aimerait en avoir plus pour être capable de rencontrer tous nos objectifs.
Bien, tout à fait. Et en terminant, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous croyez qu'Israël va écouter ses alliés en disant surtout ne ripostez pas? Ou au contraire, parce que de la part d'Israël, on dit on s'apprête à frapper l'Iran. Là. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai pas de boule de cristal, mais si j'avais un souhait à émettre, c'est qu'Israël écoute et puis qu'il dose sa riposte, parce qu'on pourra pas empêcher une riposte israélienne. Pour eux, c'est nécessaire parce qu'ils veulent pas perdre la face non plus. Et ils ont un devoir devant leur population de dire on a répondu. Mais j'espère qu'il y aura une prudence et qu'il y aura aussi une retenue.
Parce que monsieur Saint-Cyr, c'est la même chose pour l'Iran aussi. Si l'Iran se fait attaquer encore par Israël, là, veut dire les régimes des Mollahs aussi, ils doivent répliquer. Ils vont dire on est obligé de riposter. Donc là, c'est l'escalade.
Définitivement. Et je crois que du côté iranien, il y a des interlocuteurs qui sont qui leur souffrent dans le cou pour leur dire faites attention, n'allez pas trop loin. Parce que il va y avoir des dommages collatéraux. Ça veut dire que les pays limitrophes à ces régions, à l'Iran puis à Israël vont subir des contre-coups. Et je suis convaincu que ces pays-là font déjà des doléances envers les Iraniens pour dire c'est assez, on arrête, contenez-vous, et puis essayez de vous entendre. Mais ça, c'est des vœux pieux, là, parce que c'est une situation qui est très, très compliquée. Alors, si j'avais un souhait, c'est que la diplomatie et l'intervention des pays qui sont autour de ces deux pays-là agissent et puis les amènent à avoir cette prudence-là pour éviter une escalade.
Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite, ancien attaché à la défense canadienne en Russie et en Ukraine. Bonne journée, merci.
Bonne journée, M. Martineau, et merci de cette opportunité de m'exprimer.
Merci beaucoup.